Les évêques étaient à Lourdes la semaine dernière. Vous faites ce matin le bilan, Isabelle Duché, avec votre invitée sur cette assemblée plénière d'automne de la Conférence des évêques de France.
Du 5 au 10 novembre avait lieu la séance d'automne de la Conférence des évêques de France à Lourdes. Les thèmes de la mission et de l'accompagnement des personnes majeures victimes des violences sexuelles dans l'Église ont notamment été abordés. Mais il y a aussi beaucoup d'autres sujets qui ont été abordés. Nous revenons ce matin sur ces 6 jours d'échange avec Monseigneur Benoît Kvint, évêque de Pamiers. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Isabelle.
Vous avez dressé le bilan du synode sur la synodalité qui s'est clôturé à Rome juste avant cette assemblée plénière. Pour vous éclairer, Anne Ferrand, laïque en mission pour le diocèse de Rodez, était l'invitée de cette assemblée plénière. Il y avait aussi votre prédécesseur au diocèse de Pamiers, Monseigneur Jean-Marc Echen, qui a participé à ce synode. Qu'en est-il ressorti de vos échanges ?
Mais écoutez, je crois que d'abord, ce qui est revenu hein, de nos délégués au synode, hein, puisque 4 évêques y étaient, plus le cardinal Jean-Marc Aveline et Anne Ferrand que vous venez de nommer, hein. Ce qui est ressorti d'abord, c'est qu'il était intéressant de prendre le discours du Saint-Père à la fin du synode et de comprendre à travers ce discours la démarche du pape François devant ce synode. Dans ce discours, à la fois, il rend grâce, il remercie et il décide immédiatement de rendre public le texte du rapport final. C'est-à-dire que contrairement au synode, habituellement, il y a une exhortation qui est rédigée, promulguée par le Saint-Père. Cette fois-ci, c'est l'Assemblée synodale qui a fait son travail. Et c'est ce texte-là que le Saint-Père confie directement à l'ensemble de l'Église. Il n'y aura pas d'exhortation. C'est un texte de bonne qualité. Ne me demandez pas le contenu de ce texte. Il est long, il n'est pas encore traduit en français. Mais le synode, en tout cas, a permis d'expérimenter un processus de discernement communautaire qui a commencé dans les diocèses. Il y a eu beaucoup de diocèses qui ont dit « nous avons fait le synode ». Non, le synode, il s'est fait à Rome, il vient de se terminer. Maintenant, la question qui va se poser pour les paroisses, pour les diocèses, c'est de prendre ce texte, une fois qu'il sera traduit et accessible à tout le monde, c'est « qu'est-ce qui me concerne dans ma paroisse ? Qu'est-ce qui me concerne dans mon diocèse ? Qu'est-ce que nous allons faire très concrètement ?» et la vraie question pour nous, évêques, c'est de se dire « comment nous allons embarquer les chrétiens ?» et peut-être aussi les évêques, hein, dans l'ensemble de cette démarche. Et je crois qu'il faut vraiment dire autour de la démarche, de la synodalité, ce dialogue nécessaire, cette écoute de l'esprit, cette conversation spirituelle. Hein. L'Église en France a un petit peu d'avance sur d'autres églises à travers le monde, c'est ce que nous ont redit aussi nos délégués au synode. Hein. La parole, elle est éclairante sur ce chemin. Elle viendra peut-être de là où on ne l'attend pas, et ça rejoint l'évangile aussi, hein, Père, tu as caché aux sages et aux savants, et voilà, les enfants disent une parole forte. Voilà, le synode, c'est un peu cela. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Il faut soigner les processus de décision à tous les niveaux dans notre Église, travailler le rapport homme-femme, travailler la question des ministères, en particulier celui du ministère presbytéral. La hiérarchie sacerdotale est peut-être encore trop forte. Heureusement, la majorité des prêtres vit son ministère comme un vrai service. Et puis, il y a cet échange de dons qu'il nous faut aussi travailler. La catholicité peut se vivre en situation de minorité. Il faut distinguer église locale, église particulière. Voilà comment nous sommes les uns et les autres, l'église qui avance en chemin et dans l'unité. Voilà.
Voilà, donc ça, c'est effectivement un travail qui est à poursuivre tout au long de cette année et bien plus. Vous avez reçu à Lourdes, au sein de la Conférence des évêques de France, la visite de sa béatitude Sviatoslav Chevtchuk, ma prononciation. C'est l'archevêque de Kiev et le primat de l'Église gréco-catholique d'Ukraine. Que vous a-t-il dit en particulier ?
Oui, son nom est presque aussi difficile à prononcer que le mien. Alors, c'est vrai que sa béatitude, Sviatoslav, il est archevêque de Kiev, il est primat de l'Église gréco-catholique. Il a pris un temps de visite en France et il a participé à notre assemblée. Ça a été pour nous un témoin de la résistance spirituelle en Ukraine. Il nous a remercié d'abord pour l'accueil que les Ukrainiens ont reçu en France et en particulier dans nos paroisses. Ça a été, a-t-il dit, le témoignage d'une grande solidarité chrétienne et humaine. Voilà, ils ont la force... comme ça que j'ai entendu les choses un peu, ils ont la force de résister parce que la liberté et la dignité permettent de garder à la vie tout son sens. Alors il est venu à nous comme un témoin de l'espérance. L'Ukraine est debout, mais l'Ukraine est fatiguée. Elle est debout et elle prie, mais elle est aussi consciente qu'elle tient debout parce qu'elle vit dans l'espérance. Elle est debout parce que des millions de personnes du monde entier prient pour les Ukrainiens. Il nous a parlé de la migration, de cette migration un peu imposée au peuple ukrainien. Mais il nous a bien dit aussi que pour lui, ce qui était essentiel dans cette démarche de migration, c'est l'intégration, oui, l'assimilation, non. Il faut que l'on puisse vivre nos différences et les conjuguer ensemble. Et il a rappelé aussi que les Ukrainiens qui sont aujourd'hui en France veulent l'être de manière régulière. Donc c'est intéressant cette prise de parole dans le débat autour de la migration aujourd'hui.
Ah
Sauver la
oui,
vie
complètement,
humaine,
oui.
ah ouais, sauver la vie humaine, elle est importante pour les chrétiens. Où est Dieu quand on nous tue? Voilà une parole de sa béatitude. Où est Dieu quand on nous tue? Mais ce que nous vivons, a-t-il dit, est aussi une vraie opportunité pour retrouver le vrai Dieu, avoir les réponses aux questions existentielles que seul Dieu peut nous donner. Voilà, ils sont en face du visage de Dieu dans cette étape compliquée de la vie de ce pays et de ses habitants.
De grandes souffrances, oui. Et c'est vrai que ça permet de nous questionner, nous qui sommes en paix depuis de nombreuses années, alors que nous venons de fêter hier, le 11 novembre, l'armistice de la Première Guerre mondiale. C'est vrai que voilà, c'est un discours qui ne peut pas manquer de résonner, en tout cas dans nos cœurs.
Mais c'est un discours qui est essentiel, hein.
Oui.
Vous mentionnez l'armistice hier le 11 novembre. Je crois que c'est essentiel de se dire que la paix est possible, mais que la paix, elle se construit par des hommes et des femmes qui prennent de grandes décisions. Schuman, en construisant l'Europe, nous a conduits sur un chemin de paix qui fait que pendant plus de 50 ans, presque 70 ans, la paix a été aux portes de l'Europe et en Europe, partout. Aujourd'hui, c'est un drame ce que nous vivons.
Alors, pour poursuivre ce petit bilan, si on peut dire, Monseigneur Benoît Quint, de l'Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes, vous avez aussi reçu trois évêques africains. Ils sont intervenus notamment sur la mission. Quel message ont-ils délivré?
Effectivement, nous avons eu un temps de travail autour des prêtres Fidei Donum. Les prêtres Fidei Donum, c'est des prêtres qui sont envoyés par leur évêque pour le don de la foi, puisque les prêtres et les évêques ne sont pas simplement attachés à un diocèse, ils sont attachés à l'Église entière. Et la dimension des Fidei Donum, c'est effectivement de porter l'Évangile au-delà des frontières du diocèse où on a été incardiné. Voilà. Mais c'est à la fois porter l'Évangile, mais aussi accueillir les dons propres du pays où on est envoyé, mais porter aussi ce qui est particulier de l'Église locale d'où nous venons. Voilà. Alors nous avons accueilli le cardinal Fridolin, qui est l'archevêque de Kinshasa. D'abord, il nous a dit merci pour les missionnaires qui ont évangélisé, qui ont été envoyés par des congrégations, par des diocèses dans ces pays d'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est 37 conférences épiscopales, pour la plupart des conférences épiscopales nationales. Et le synode, a-t-il rappelé, nous appelle à travailler ensemble. Alors, on constate aussi que il y a parfois, ils sont allés jusqu'à là. Il a dit, nous avons aussi un climat qui aujourd'hui fait évoquer de temps en temps, selon les pays, un ressentiment vis-à-vis de la France, en particulier dans les anciennes colonies françaises. Mais il a plutôt déployé la coopération entre les églises. Elle est d'un autre ordre que de la simple aide. Elle est vraiment une collaboration, cette coopération entre églises. Il nous faut réfléchir sur des modalités peut-être nouvelles entre les églises d'envoi et les églises d'accueil. Aujourd'hui, être Fidei Donum, c'est venir d'ailleurs, arriver sur une terre de mission, mais qui a déjà été évangélisée, mais qui a besoin peut-être de découvrir d'autres choses de l'Église. J'ai dans le diocèse de Pamiers plusieurs prêtres Fidei Donum qui viennent tous du Burundi, à une exception près, hein, dans le sens où il y a un jumelage entre le deux diocèses du Burundi, et ce sont les prêtres qui sont déjà en Ariège qui accueillent les prêtres qui arrivent du Burundi. C'est les prêtres burundais, ariégeois, je vais dire ça comme ça, qui
Oui.
accueillent les prêtres burundais, voilà. Et ça facilite une inculturation.
Eh
Le
oui, bien
vrai
sûr.
chantier que le cardinal nous a invités à ouvrir, c'est peut-être de travailler davantage à l'accueil, mais aussi à l'envoi de leur côté, à l'envoi en mission de ces prêtres Fidei Donum. Il a évoqué, pourquoi pas, la création d'un centre de missiologie pour préparer à la mission, pour relire la mission. Et la relecture de la mission est quelque chose d'essentiel. J'ai un évêque du Burundi qui est passé au mois de janvier cette année ici en France à Pamiers et avec lequel nous avons pris le temps de relire la mission des Burundais de son diocèse, quoi. tout simplement. Et le temps de relecture est essentiel. Se dire qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce que je découvre, qu'est-ce qui me surprend, qu'est-ce qui me construit, qu'est-ce qui me désole parfois
Oui, bah
devant une
oui.
église à moitié vide ou aux trois quarts vide, sans jeûne. Voilà, donc c'est. Il y a un choc dans cette dimension de Fidei Donum, mais il y a aussi une vraie chance pour l'Église que de pouvoir compter sur des missionnaires qui, en dialogue avec leur évêque, ont accepté cette mission de partir porter l'Évangile ailleurs.
Oui, c'est très beau, effectivement, et c'était important d'avoir cette attention assez près de Fidei Donium. Vous avez aussi, toujours dans la mission, puisque c'était aussi un des sujets phares de cette conférence des évêques de France, vous avez abordé la question du scoutisme, parce que là aussi, le scoutisme a sa place dans la mission, et notamment, on le voit bien dans les demandes de baptême des jeunes adolescents, par exemple, et dans les vocations.
Tout à fait, tout à fait. Alors le scoutisme se positionne de manière un peu différente selon les mouvements, mais ils sont complémentaires et solidaires les uns des autres. Aujourd'hui, le scoutisme, c'est un lieu d'initiation chrétienne, c'est une école de synodalité. On apprend à travailler ensemble, à réfléchir ensemble, à partager ensemble, à décider ensemble. Et
Et
c'est
chacun a sa
aussi
place, même le plus petit.
tout à fait, tout à fait. C'est aussi un lieu d'apprentissage et d'engagement. Et je crois que lieu d'initiation chrétienne, lieu de synodalité, lieu d'apprentissage et d'engagement, c'est pas rien. Et aujourd'hui, en France, l'ensemble des mouvements scoutistes, c'est 170 000 jeunes. C'est une fraternité entre mouvements qui se développe aussi. Et c'est bien cela qu'on a aperçu entre les mouvements de scoutisme qui étaient là et qui ont présenté leur vie, leur démarche de manière commune avec des jeunes de tous milieux qui rejoignent le scoutisme aujourd'hui et qui comprennent combien ce scoutisme, c'est une véritable école de vie, je crois que c'est ça qui est important de repérer. Il y a eu une enquête IFOP
Ah oui,
qui a marqué
au
un
mois
petit peu
d'octobre, oui.
voilà ce qu'est le scoutisme aujourd'hui dans ce lien social. Et on n'a pas été étonné par ces conclusions, même surpris par les chiffres et les mouvements nous ont redit combien cette impression de voir que l'engagement dans la vie bénévole, le taux de participation civique, la générosité des anciens scouts, elle est essentielle. On est façonné par le scoutisme comme école de vie. On est façonné par le scoutisme et les questions qui touchent au bien-être, à la santé mentale. Les scouts ont fait finalement de. Un vrai chemin, un chemin d'équilibre de vie qui leur a permis d'aller plus loin et de permettre aux jeunes de grandir dans cette société. Ils développent un lien privilégié à la nature, ils gèrent mieux l'écran ordinateur et l'écran tablette et puis téléphone portable, hein. L'enquête confirme que la méthode scout, elle répond aux défis actuels de la société. Et je crois que c'est important de repérer que l'IFOP est allé jusqu'à interpeller les mouvements en disant combien leur action est essentielle. Ils sont un ferment dans la
Oui, c'est
société, dit
ça. Ils
l'IFOP.
ont leur place dans
Ils
la
en
société.
sont des participants sains et heureux et en rayonnent autour d'eux, quoi. Donc je crois que c'est intéressant de voir que ce sont des bâtisseurs de fraternité parce qu'ils la vivent, ce sont des acteurs de synodalité parce qu'ils la vivent, et le scoutisme est un véritable lieu d'initiation chrétienne. Les scouts et guides de France, par exemple, vont jusqu'à se poser la question de ministères institués dans le scoutisme pour transmettre l'évangile. Voilà.
Oui, donc vraiment des mouvements à encourager, non seulement dans nos villes, mais aussi dans nos campagnes, dans tous nos territoires. Dernier sujet, Monseigneur Benoît Quint, la lutte contre les violences sexuelles de l'Église, qui reste un sujet de préoccupation majeure pour la Conférence des évêques de France. Les évêques ont voulu publier trois documents, pour permettre d'avancer sur ce sujet. Quels sont-ils?
Alors effectivement, nous avons poursuivi notre travail après le rapport de la FIAS hein, pour continuer à rendre plus belle et plus oui, elle est plus sûre notre Église, je veux dire ça comme ça. Et nous avons abouti à trois documents. Ça fait plusieurs conférences hein, qu'on travaille là-dessus déjà. Il y a un document qui donne des repères pour les confesseurs. Il y a un document qui a été appelé charte pour l'accompagnement spirituel. Et il y a un document de référence aussi pour l'accompagnement du ministère des prêtres. Trois documents qui vont être relayés par les évêques dans leur diocèse et tous les évêques ont voté. Nous nous sommes engagés à ce que ces trois documents soient la source un petit peu d'un document diocésain pour que les évêques publient ces documents dans leur diocèse.
Et ça va
Alors
donner lieu à
évidemment,
des discussions avec les prêtres de chacun des de vos diocèses ou...
ce sont des documents qui ont déjà été travaillés par les
D'accord.
conseils presbytéraux. C'est une chose intéressante, c'est que ce n'est pas un document qui tombe d'en haut, c'est un document, et on retrouve là tout à fait la dynamique synodale
Oui,
aussi,
bien
hein,
sûr.
du fonctionnement de l'Église, hein, qui existait avant même le synode sur la synodalité. Hein. Mais voilà, ce document de repère pour les confesseurs, cette charte d'accompagnement spirituel, ça a été dialogué dans les conseils presbytéraux, hein, au niveau de chaque diocèse, et puis travaillé avec les secrétaires généraux de ces conseils au niveau national, et retravaillé par la conférence des évêques pour aboutir à des textes qui sont aujourd'hui utilisables et à destination des prêtres, des laïcs, de l'ensemble de chacun de nos diocèses.
Et puis évidemment, ce sujet de la lutte contre les violences sexuelles dans l'Église reste un sujet qui n'est pas clos et il y a encore du travail que vous allez fournir, notamment dans les prochaines assemblées plénières. Donc ce sera encore un sujet à suivre. Un
Oui,
dernier
j'ai envie de
mot.
dire que c'est un
Oui.
travail de veille à côté duquel on ne peut pas passer et qu'il nous faut
Eh bien voilà.
continuer.
Oui, c'est ça. Vous avez publié aussi, à l'issue de cette assemblée plénière, un texte pour aider à vivre l'année sainte 2025. Et je cite Monseigneur de Moulin-Beaufort qui dit que ce synode, cette année jubilaire, est un beau temps de relance paroissiale et missionnaire. Donc nous attendons ce texte.
Eh bien oui, ce texte qui nous parle du jubilé de 2025, un jubilé marqué par l'espérance, et c'est pas rien de se dire l'espérance dans un monde qui va pas toujours très bien. C'est un texte que nous avons voulu principalement pour les personnes qui exercent l'annonce de l'Évangile en France, voilà, qui ont une responsabilité dans cette annonce de l'Évangile. On va dire tous les baptisés ont cette responsabilité, mais certains partagent de manière plus particulière cette mission avec les évêques, et on voudrait les encourager dans cette mission avec ferveur, comme c'est dit dans ce document en début de cette lettre, hein, dans l'année jubilaire, pour qu'elle soit vraiment un nouveau départ pour des témoins d'espérance. On a au cœur de cette année jubilaire un anniversaire majeur aussi, qui est l'anniversaire du Concile de Nicée. L'affirmation de Nicée, elle apporte quelque chose de révolutionnaire quant à l'image de Dieu.
Voilà.
Sans cesser d'être Dieu, le Fils ne craint pas de s'abaisser jusqu'à assumer notre
Notre
humanité, à prendre
condition
sur lui
humaine.
notre faiblesse, nos péchés, pour restaurer dans l'harmonie où il nous avait établis avec lui, entre nous et avec toute la création. C'est un vrai chemin d'espérance qui s'ouvre à nous à travers cette lettre-là, que j'invite tout le monde à découvrir.
Voilà, merci beaucoup, Monseigneur Benoît Bonnochsen, pardon, évêque de Pamiers. Merci pour ce compte-rendu et ce bilan de
Merci
l'Assemblée
Isabelle.
plénière
Bonne journée.
des évêques de France pour cet automne. Bonne journée.